Bonjour à tous. Très heureux de me retrouver parmi vous ce matin. Vous savez que ces dernières semaines, avant Pâques, on a pris le temps d'aborder un thème ensemble. Et ce thème, c'était celui de l'Église. On est revenu sur cette question tellement importante, tellement présente dans le Nouveau Testament. Et on a eu l'occasion de voir ensemble qu'en tant que chrétien, on ne pouvait pas faire l'économie de l'Église. Que l'Église, c'était ce que Jésus avait voulu, c'est ce qu'il avait prévu. Et il avait prévu qu'à certains moments, il y ait des temps qui soient réservés pour que les chrétiens et les chrétiennes se rassemblent ensemble. Parce que tout ce qui est de l'ordre de l'encouragement mutuel, de l'édification mutuelle, tout ça, ça passe par le rassemblement des chrétiens. On a vu aussi toute l'importance de l'unité. L'Église, elle va vers un avenir. L'Église, elle va vers un plan que le Seigneur a prévu pour elle. Et c'est important qu'on puisse regarder tous dans la même direction. Donc on a vraiment pris le temps d'aborder ce thème qui est tellement important, tellement présent. Et par définition, une église, elle est composée de chrétiens. Sauf que le terme de chrétien, il peut être un peu faussé, il peut être un peu galvaudé. Parce que dans l'esprit de beaucoup, chrétien, on l'est par éducation, on l'est par culture. On est chrétien parce qu'on vit dans un pays dont la culture est empreinte de christianisme. On est chrétien parce que ma religion, c'est le christianisme. Je suis chrétien parce que mes parents m'ont enseigné la foi chrétienne, m'ont transmis la foi chrétienne. Donc ça peut, souvent, ça résonne dans l'esprit des gens comme un fait de culture, comme un fait d'éducation. Sauf que le mot de chrétien a un sens beaucoup plus profond et beaucoup plus précis que ça. C'est celui qu'on trouve évidemment dans les Écritures, c'est celui qu'on trouve dans le Nouveau Testament en particulier, puisque c'est là que le mot apparaît. Il nous est dit que pour la première fois où les disciples de Christ ont été appelés chrétiens, c'était à Antioche. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce mot-là ? Être chrétien, ça veut dire être disciple de Jésus. Ce n'est pas simplement quelque chose que je reçois, ce n'est pas simplement quelque chose que je deviens parce que ça fait partie de mon environnement. Être chrétien, c'est être disciple de Jésus, ça veut dire que j'ai fait le choix de recevoir l'Évangile, j'ai fait le choix personnel de reconnaître Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Le mot chrétien, la manière dont il est construit, avec la terminaison particulière qu'il y a dans le mot grec, littéralement, ça veut dire partisan de Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est partisan de Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui milite pour Christ. On est dans un contexte électoral en ce moment, on est entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et le contexte nous permet de bien comprendre, peut-être de mieux comprendre encore, qu'est-ce que ça veut dire chrétien, quelle est la signification profonde du mot chrétien. Vous avez remarqué que vous avez plusieurs candidats qui se sont présentés à l'élection présidentielle, et ces gens sont évidemment soutenus par leurs partisans, et les partisans prennent, d'une certaine manière, le nom de leurs candidats. Les partisans de Mélenchon, on les appelle les mélenchonistes. Les partisans de Fillon, on les appelle les fillonistes, on les appelait. Les fillonistes. Et on peut prendre comme ça les noms de chaque candidat. Je ne vais pas utiliser les noms des deux candidats qui restent en lice. Comme ça, il n'y aura pas d'interprétation, de trucs subliminal, de consignes cachées, rien du tout. Mais ça fonctionne de la même manière. On met « iste » à la fin du mot. Peut-être qu'aujourd'hui, si Jésus était venu au XXIe siècle, ses partisans les appelaient les christistes. Ce n'est pas très joli, hein, c'est moins joli. Mais chrétien, c'est ça, c'est être partisan du Christ. Et vous avez remarqué, moi je suis fasciné par le zèle que chaque partisan, chaque militant a pour son candidat. C'est extraordinaire le temps qu'ils prennent. Ils n'hésitent pas à prendre du temps, ils vont battre le pavé, ils vont mouiller la chemise, ils vont prendre du temps pour organiser des meetings, ils vont prendre du temps pour se briefer entre eux, pour pouvoir apprendre à répondre aux questions qui peuvent leur être posées, par les journalistes notamment. Ils vont prendre du temps pour aller distribuer des tracts sur les marchés. Ils vont prendre du temps pour apprendre à communiquer le programme de chacun de leurs candidats. Ils vont prendre du temps pour coller des affiches. En période électorale, une affiche collée, ça a une durée de vie de 3 heures. Donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois, pratiquement toutes les 3 heures, retourner dans la ville pour recoller des affiches. Ils sont capables de faire tout ça. Ils peuvent tenir des permanences. Tout ça parce qu'ils ont un objectif. Ils sont militants parce qu'ils considèrent que le candidat qu'ils soutiennent a le meilleur programme pour la France. Ça nous donne une idée assez précise, je trouve, de ce que ça veut dire être partisan du Christ, être chrétien. Ça veut dire militer pour Christ. Ça veut dire vivre pour Christ. Ça veut dire s'engager pour Christ. Ça veut dire s'investir pour Christ. Et la raison de ce comportement des chrétiens, c'est parce qu'ils sont convaincus que Christ est la solution. Ils sont convaincus que ce qu'ils ont vécu dans leur vie, là, ça démontre que Christ est la solution. Qu'est-ce que ça veut dire être disciple de Jésus ? Là, dans les prochains temps, maintenant, on va parler de ça. On a besoin vraiment de comprendre, de saisir ce que ça signifie être disciple de Jésus-Christ. Si on est chrétien, on est disciple de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'un disciple de Jésus ? On va voir ça en trois temps. Et le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est être disciple de Jésus, c'est d'abord entendre son appel. Ça commence par un appel. Les Juifs, à l'époque de Jésus, qui voulaient se perfectionner dans la connaissance de la Bible, cherchaient un maître, quelqu'un qui connaissait bien les textes bibliques, et ils cherchaient un maître pour apprendre à bien comprendre les textes bibliques, les textes de l'Ancien Testament en l'occurrence, et à bien les appliquer. Et à l'époque de Jésus, les maîtres en matière religieuse étaient appelés des rabbis. C'est un mot que vous connaissez certainement si vous êtes familier des textes bibliques. Rabbi, littéralement, en hébreu, ça veut dire « mon maître ». C'est tiré d'un mot hébreu qu'on trouve d'ailleurs dans l'Ancien Testament, « rab », qui veut dire « grand ». Et c'est un mot qui est utilisé pour désigner dans l'Ancien Testament un commandant de l'armée, par exemple, ou alors quelqu'un qui est en place dans l'administration royale. Donc, pour désigner quelqu'un qui est haut placé. Donc, rabbi, c'est un titre honorifique accordé à ces personnes parce qu'elles étaient des expertes de la Bible. Et ces personnes avaient été eux-mêmes instruites par des maîtres et elles étaient capables à leur tour d'instruire d'autres personnes. Et il y avait un grand rabbi à l'époque de Jésus qui faisait partie de l'école des pharisiens. Les pharisiens, c'était ceux qui certainement connaissaient le mieux la Bible. Et ce grand rabbi s'appelait Gamaliel. Et on a une phrase de Gamaliel qui nous est restée, qui nous est parvenue, qu'on trouve dans la littérature rabbinique. Et Gamaliel a dit la chose suivante. Il a dit « Trouve-toi un maître et dégage-toi du doute. Ainsi, tu éviteras de payer la dîme en trop parce que tu ne fais que supposer. » Gamaliel disait « Le meilleur moyen d'être éclairé sur la volonté de Dieu qui est révélée dans la Bible, qui est révélée dans les textes bibliques, c'est que tu te trouves un maître. Si tu doutes, et que tu as besoin de te dégager du doute, trouve-toi un maître. Il va t'expliquer la parole, il va t'expliquer les textes bibliques, et à ce moment-là, les textes bibliques, tu pourras les appliquer le mieux possible. » Et en l'occurrence, Gamaliel, il savait bien faire sa pub, là, parce qu'il disait, si tu ne sais pas trop comment payer la dîme, et que tu penses que tu vas payer plus qu'il ne faut, trouve-toi un maître. En fait, on a l'impression qu'il fait un peu sa pub pour lui. Toi. Gamaliel, la solution pour payer moins d'impôts. Parce que c'était compliqué de se retrouver dans tous les textes de Bible qui parlaient de la première dîme, la seconde dîme, tous ces pourcentages qu'il fallait verser. Alors Gamaliel dit, si tu veux te dégager du doute, si tu ne veux pas rester dans les suppositions, trouve-toi un maître et tu recevras l'instruction, l'enseignement qui te permettra d'être éclairé, qui te permettra de voir clair. Et parmi ceux qui ont choisi Gamaliel comme maître, il y en a un que nous connaissons les uns et les autres, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui a laissé tant d'écrits qui constitue aujourd'hui le Nouveau Testament. C'est ce qui nous est dit dans Actes 22, au verset 3, où il est devant le Sanhédrin et il explique à ceux qui l'entendent qu'il a été instruit au pied de Gamaliel. Et ça, c'est une expression pour dire qu'il a eu Gamaliel comme maître, être instruit au pied de Gamaliel. Vous voyez l'image, le maître qui enseigne et puis les disciples qui sont à ses pieds et qui l'écoutent. Être instruit au pied de. J'ai eu Gamaliel comme maître. Suivre un maître, avoir un rabbi, c'était l'équivalent aujourd'hui de faire des études supérieures, si on veut bien comprendre les choses. Avoir Gamaliel comme maître, c'est comme être étudiant aujourd'hui à la Sorbonne, à Harvard, à Oxford, à Berkeley, à Stanford. Et c'est pareil, c'est ça. Donc il y avait, quand on avait choisi un bon maître comme Gamaliel, il y avait aussi beaucoup de prestige à être le disciple d'un tel maître. Et il se trouve, quand on lit les textes des évangiles, que plusieurs fois, Jésus a été appelé rabbi ou rabouni, c'est la même chose, mon maître. Les gens, quand ils venaient à lui pour poser des questions, par exemple, des fois ils viennent, ils l'appellent maître. Les disciples, les 12 disciples, l'appelaient aussi maître. Donc ça veut dire qu'on reconnaissait aussi qu'il connaissait bien les Écritures, on reconnaissait qu'il avait un enseignement solide à donner. Mais il y a quelque chose de vraiment particulier avec Jésus, quelque chose d'unique. C'est que l'habitude, c'était qu'un juif qui voulait mieux connaître la loi, mieux connaître les textes, devait faire la démarche de choisir un maître. Paul, il avait choisi Gamaliel. Et la différence avec Jésus, c'est que ce ne sont pas les disciples qui vont choisir leur maître, mais c'est le maître qui va choisir les disciples. On ne trouve ça nulle part ailleurs. On a des exemples de rabbis qui nous sont conservés dans les textes, mais on ne voit jamais un rabbi appeler ses disciples. Toujours, ce sont les disciples qui choisissent leur maître. C'est ce qu'on, pour ce qui concerne Jésus, c'est ce qu'on lit dans Marc 3, au verset 13, où il est dit que Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il y a un appel, c'est Jésus qui choisit ses disciples, c'est Jésus qui appelle ses disciples. Et le fait absolument extraordinaire, c'est que son appel était destiné à tout le monde, même aux femmes. Vous connaissez ce texte où Jésus est dans la maison de Lazare et puis Marthe est en train de s'affairer, en train de préparer à manger pour toutes les personnes qui sont dans la maison. Et il nous est dit que Marie écoutait Jésus. Et voilà comment les choses sont formulées. On trouve ça dans Luc 10, verset 39. Marthe avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Vous reconnaissez la formulation technique, on le trouvait tout à l'heure utilisée pour Paul qui était au pied de Gamaliel. Eh bien là, c'est la même formulation qui est utilisée pour Marie qui est au pied de Jésus. Et ça, c'est un autre fait extraordinaire. C'est que les hommes, mais aussi les femmes, étaient instruits par Jésus. Au travers de l'appel de Jésus, il y a l'appel de Dieu. Il y a l'appel de Dieu qui dit, mais en fait, moi, Jésus te dit « suis-moi », mais au travers de cet appel, moi je te dis « je t'aime et je veux être en contact avec toi ». Au travers de l'appel que Jésus t'adresse, au travers de l'enseignement et de l'instruction qu'il va te donner, en fait, moi je veux me révéler, moi je veux te parler, moi je veux te dire qui je suis, véritablement. Je t'aime tellement que moi je ne peux pas me passer de toi. Je t'aime tellement que j'ai envie d'aller vers toi. Je t'aime tant que je veux être là pour t'aider dans chaque aspect de ta vie. Je t'aime tant que je veux t'éclairer pour que tu fasses les bons choix. Je t'aime tant que je veux te révéler pleinement ma parole. Je ne veux pas que tu aies doute sur qui je suis. Je veux que tu te dégages du tout sur là où je veux te conduire, là où je veux te mener, sur le plan que j'ai pour ta vie. Derrière Jésus qui dit « suis-moi », c'est Dieu lui-même, le Dieu de l'infini, le Dieu éternel, le Dieu créateur qui nous appelle. Celui dont on s'est séparé à cause de notre faute, à cause du mal que nous pensons, que nous agissons, il nous appelle et on peut reconnecter avec lui grâce à Jésus. Quand on comprend que c'est Dieu qui nous cherche et qui nous appelle au travers de Jésus, à ce moment-là, l'enseignement de Jésus et l'instruction de Jésus, ce n'est pas une affaire de morale, ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de règles à observer, mais c'est la meilleure instruction que nous puissions avoir pour notre vie. C'est un éclairage, c'est une lumière, c'est quelque chose que Dieu lui-même veut nous révéler. Malgré l'amour de Dieu qui motive l'appel de Jésus, la réponse que nous pouvons donner à l'appel de Jésus peut être différente, très différente. Et au travers des siècles, et encore aujourd'hui, face à cet appel de Jésus, on peut avoir des réponses différentes, radicalement différentes, que nous pouvons donner à cet appel. L'exemple le plus connu, c'est certainement celui du jeune homme riche. L'Évangile nous raconte qu'un jeune homme est venu voir Jésus et lui pose une question très importante, une question cruciale. Il lui dit, bon maître, il l'appelle maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus, il sonde un peu les choses et lui dit, si tu veux être sauvé, il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Tu connais les commandements, les 10 commandements, et il fait la liste des 10 commandements. Et voilà que le jeune homme lui répond, mais en fait, depuis que je suis tout petit, ça je le fais. J'étais instruit dans ces commandements, et je l'accomplis, je le fais. Alors, je suis un peu déçu là par ta réponse, il n'y a pas autre chose que tu pourrais me dire. Et on va lire ensemble la réponse que Jésus lui fait dans Marc 10. Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. Jésus le regarda avec amour et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. J'aime beaucoup l'expression qui est utilisée dans le texte au verset 21 lorsqu'il est dit que Jésus regarda cet homme avec amour. Les paroles que Jésus va prononcer, elles sont remplies d'amour, elles sont pleines d'amour. Parce qu'il sait qu'il y a un enjeu pour cet homme. Alors c'est un peu comme, il y a un autre texte qui dit que Jésus mit le comble à son amour, on a l'impression que c'est la même chose. Et je suis certain que cet homme, il a capté l'amour qui se manifestait et que Jésus lui transmettait à ce moment-là. Il a une parole pleine d'amour. Jésus n'est pas en train de lui donner un commandement. Il est en train de lui dire, là, il va falloir que tu accomplisses cette parole parce qu'elle est nécessaire, parce qu'elle est cruciale pour toi. Il faut que tu vendes tout ce qui t'appartient et que tu me suives parce que là, je t'appelle à rentrer dans ta destinée. Je t'appelle à rentrer dans le plan que j'ai pour toi. Mais alors que Jésus s'adresse à lui de cette manière-là, cet homme-là, il préfère rester dans son confort religieux et matériel. Jésus l'intéresse, puisqu'il va le voir, puisqu'il lui pose une question. Donc il n'est pas désintéressé par Jésus, ce n'est pas un ennemi de Jésus. Comme bien souvent, on a d'autres qui viennent vers lui, il l'appelle maître, mais c'est pour le piéger, c'est pour le tester, c'est pour l'éprouver. Mais lui, ce n'est pas le cas. Et il est prêt vraiment à se laisser éclairer, il est prêt à être à l'écoute de ce que Jésus veut lui dire. Il apprécie d'entendre Jésus, mais il veut que ça lui coûte rien. C'est ça le problème, c'est là que ça bloque. Il veut que ça lui coûte rien. J'aime bien ta parole, j'aime bien ton enseignement, je t'ai entendu prêcher. Là, je me pose une question, je voudrais en savoir plus. Mais finalement, ce que tu me dis, ça va me conduire à faire un sacrifice. Ça va me conduire à prendre une décision. Et je n'ai pas envie que ça me coûte. En fait, il veut juste être conforté dans ce qu'il pense être bien et dans ce qu'il pense être suffisant. Voilà, j'observe les commandements, ma vie matérielle me permet d'avoir ma sécurité. J'aimerais mieux que tu me dises que c'est bien ce que je fais, puis voilà, on en reste là. Hein, c'est un peu de cette manière-là dont on peut répondre, on peut réagir par rapport à l'appel de Jésus. Ah, Jésus, quand tu me parles, quand j'entends ta parole, mais j'aime bien quand tu me dis que tu m'aimes. J'aime bien savoir qu'il y a un regard d'amour qui est posé sur moi. Ça me fait du bien. J'aime bien quand j'entends que j'ai de la valeur à tes yeux, que je suis précieux, que je suis précieuse, que je suis tellement précieux que tu as donné ton fils unique pour moi. Mais ça me plaît, ça. J'aime bien quand tu me dis, je vais toujours être là, je serai fidèle. Et quel que soit le problème auquel tu seras confronté, je serai là. Ça, j'aime bien. Mais s'il te plaît, ne me demande rien. Laisse-moi tranquille avec mes habitudes. Laisse-moi tranquille avec mes règles. Laisse-moi tranquille avec mes repères, avec ce que j'ai l'habitude de faire. Laisse-moi tranquille avec ce que je maîtrise. Laisse-moi tranquille avec ce qui représente ma sécurité. S'il te plaît, ne me demande pas de témoigner à mon voisin. Envoie quelqu'un d'autre pour aller parler à celui qui habite à côté de chez moi. Ne me demande pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me demande pas de prendre plus de temps pour ton service parce que je suis déjà pas mal occupé. Demande à celui qui est assis à côté de moi, là, ou au rang d'à côté. Ne me demande pas ça, s'il te plaît. Ça m'indispose, ça m'inquiète un peu. S'il te plaît, ne me demande pas d'aider les démunis. J'ai pas envie de porter toute la misère du monde. J'ai pas envie là. Il y en a d'autres, ils sont beaucoup plus aisés que moi. Donc ne me demande pas ça. Je te fais confiance, Seigneur, pour ne pas avoir trop à te faire confiance. Et si tu m'exauces, ton pommier, je reviens dimanche prochain. Ça, c'est la réaction de cet homme-là, d'une certaine manière. Jésus lui demande d'être disciple. Il lui dit, je te demande de quitter ce qui constitue ta sécurité, sur ce quoi tu as l'habitude de t'appuyer. C'est ce qu'il demande. Ce n'est pas le même topo avec Pierre, avec Simon Pierre et avec ses associés, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Vous vous souvenez de cette histoire, Jésus est dans le bateau de Pierre et il est en train de prêcher à la foule qui se trouve sur le rivage. Et lorsqu'il a terminé sa prédication, il dit à Pierre, éloigne-toi, va là où c'est le plus profond dans le lac et jette les filets. Et Pierre répond, écoute, on a pêché toute la nuit, mais ok, si tu le dis, on va le faire. Il y a vraiment peu de chance qu'on puisse prendre quelque chose, mais on y va. Ils y vont, ils obéissent à Jésus, Pierre jette les filets, et il y a des dizaines et des dizaines de poissons, à tel point qu'il n'a pas assez de force, ils ne sont pas assez dans le bateau pour pouvoir ramener tous les poissons. ils font venir, il appelle ses associés, Jacques et Jean, ils viennent, et il nous est dit qu'il y a deux bateaux entiers qui sont remplis de poissons. Et vous vous souvenez à ce moment-là de la réaction de Pierre, on va la lire ensemble dans Luc 5, verset 8. « Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » C'est carrément le contraire du jeune homme riche. Un jeune homme riche, il dit, « Moi, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire, les commandements. Oh, non, cette puissance que tu manifestes, elle me montre que ça ne colle pas en moi. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais, tu pêcheras des hommes. » Verset 11, « Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. » On est aux antipodes de l'exemple que nous avons vu avec le jeune homme riche. Pierre admet sa faiblesse. Pierre admet qu'il a besoin d'être éclairé sur lui-même. Pierre admet qu'il ne peut pas tout contrôler, qu'il ne peut pas tout maîtriser. Il croyait maîtriser sa vie. Quand il répond à Jésus, « Mais écoute Jésus, on a travaillé toute la nuit. On sait bien que c'est la nuit qu'il faut aller pêcher. Là, on est en plein jour. En plus, tu nous dis d'aller là où le lac est le plus profond. En fait, ce n'est pas là qu'il faut aller parce que nos filets ne peuvent pas descendre jusqu'au fond du lac et on prend un risque. En fait, il faut aller là où c'est moins profond. Tu nous dis le contraire de ce qu'il faut faire. » Il pourrait dire ça. Il pourrait dire, moi je suis pêcheur depuis que je suis tout petit. À l'époque, on ne choisissait pas son métier, on prenait le métier de son père. Donc depuis qu'il avait 6 mois, il pêchait, Pierre. Il pêchait. Il aurait pu dire, mais attends, écoute Jésus, t'es charpentier. Toi, si j'ai besoin d'un conseil pour planter un clou, pour raboter, pour scier, ok, d'accord, mais la pêche, ça me connaît, ça c'est mon domaine. Je contrôle, je maîtrise, je suis sécure. Je connais mon boulot. Et non, il fait... Non. Et c'est parce qu'il va obéir à Jésus, c'est parce qu'il va quitter sa zone de confort, comme on dit, qu'il va être béni, qu'il va voir la puissance de Dieu se manifester, qu'il va voir Jésus accomplir un miracle extraordinaire à tel point qu'il est tellement étonné, il est tellement saisi. Et Pierre dit, mais je croyais que c'était moi qui maîtrisais les choses. Je croyais que c'était moi qui étais fort. Mais non, ce n'est pas moi, c'est toi qui es fort. Je croyais que j'avais la puissance, mais c'est toi qui as la puissance. Alors, ok, pas de problème. Si quelqu'un qui a cette puissance-là m'appelle à le suivre, okay, ma sécurité, ce n'est pas mes filets. Ma sécurité, ce n'est pas mon bateau. Ma sécurité, mais c'est toi. Et puisque tu es ma sécurité et parce que tu peux faire des choses aussi extraordinaires, ok, on va au bout du monde, si tu veux. Quel contraste entre l'un et l'autre. Être un disciple, c'est ça. C'est vraiment croire là que c'est avoir placé sa confiance, sa foi en celui qui est vraiment puissant, en celui en lequel on peut trouver sa sécurité. C'est important de le réaliser parce que nous sommes porteurs d'un message extraordinaire qui est appelé à se manifester. On est appelé à concrétiser ce message-là. Je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques semaines ici à Angers. Souvent, on raconte des histoires qui sont passées aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique et tout ça. Ici à Angers, il y a 2 ou 3 mois, il y a une jeune, elle m'a donné l'autorisation de raconter cette histoire ce matin. Je ne lui ai pas demandé si je pouvais la citer, donc pour ne pas la gêner, je ne vais pas dire son prénom. Mais à Angers, elle prend le tramway. Et là, alors qu'elle rentre dans le tramway, elle voit une femme qu'elle connaissait. C'était une amie de sa mère. Elle n'avait pas vu depuis longtemps. Donc, elle est allée vers elle et elle lui a demandé des nouvelles. Et en lui demandant des nouvelles, cette femme, elle a dit qu'elle était atteinte par le cancer. Et cette jeune, lorsqu'elle a reçu cette nouvelle, elle a senti l'esprit en elle qui l'a pressée. Et quand elles sont sorties du tramway, elles sont assises sur un banc et elle a prié pour cette femme qui est musulmane. Une femme musulmane, elle a prié pour cette femme. Cette jeune, elle a 18 ans, elle a même pas 6 mois de baptême, mais je crois qu'elle a compris ce que c'est qu'être disciple de Christ, être disciple de Jésus. Parce que là, elle l'accomplit, elle est disciple, elle incarne le message. Et elle le fait, pas dans une mission, elle le fait on the marketplace, comme dirait David à chaque fois qu'il vient. Ça, c'est être disciple de Jésus, c'est vivre ce message, c'est être porteur de ce message. Le deuxième point, rapidement, que je voudrais voir avec vous, c'est être disciple de Jésus, c'est se mettre à l'écoute de sa parole. Il y a l'appel, et après, il y a être à l'écoute de la parole de Jésus. Jésus a souvent pris l'initiative d'enseigner ses disciples. Par exemple, le sermon sur la montagne. une instruction là, qui va durer deux chapitres dans l'évangile de Matthieu. Et à partir du moment où les disciples ont accepté Jésus comme maître, ça veut dire qu'ils sont disposés à mettre du temps à part pour recevoir l'enseignement de Jésus. Hop là, attention, Jésus va parler, on arrête tout, tout ce qu'on est en train de faire, on ne s'en occupe plus maintenant, on prend du temps et on écoute Jésus. Ça, ça correspond au temps que nous vivons ensemble, aux temps qui sont proposés régulièrement pour se mettre à l'écoute de la Bible. C'est ce que les jeunes font le samedi soir avec Osmose, avec le groupe de jeunes, c'est ce que nous faisons chaque dimanche matin lorsque nous nous réunissons ensemble, c'est ce qui se passe dans le cadre des réunions de femmes, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec Explorer l'adoration, où on s'est retrouvés ensemble, les différents acteurs de la louange. C'est ce qui se passe avec les études bibliques qui sont quelquefois proposées, comme ce qu'on a vécu les années passées avec Manuel et Tina, sous forme de la Bible, sous forme d'apport. Il y a aussi évidemment les temps personnels qu'on peut appeler à avoir, chacun pour soi. Mais c'est du temps, ça, c'est du temps qui est mis à part pour recevoir l'enseignement dont on a besoin pour bien connaître la volonté de Dieu. Pour savoir comment est-ce que je peux mettre en pratique la volonté de Dieu, comment je peux grandir, comment je peux mûrir, comment je peux me fortifier spirituellement. Ça ne vient pas tout seul, ça ne tombe pas du ciel. Je veux dire ça, les choses comme ça, parce qu'on a l'impression, parce qu'on croit en Dieu, on croit en l'action du Saint-Esprit, que poum, les choses vont tomber du ciel. Mais si nous ne faisons pas le choix, si nous n'avons pas l'intention de mettre des temps à part pour mieux connaître la parole, ça ne se fera pas. La parole, elle est là pour qu'on lise. Les choses ne vont pas s'imprégner comme ça, s'imprimer dans notre esprit, tout seul. Donc, il y a des temps comme ça qu'on est appelé à prendre. On arrête tout, Jésus va parler. Mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant quand on lit les évangiles, c'est qu'à plusieurs reprises, les disciples ont eux-mêmes demandé l'enseignement de Jésus. Un jour, ils ont vu Jésus prier, et il y avait une telle intensité, une telle profondeur dans la vie de prière de Jésus, ils sont allés voir Jésus et ils ont dit, mais enseigne-nous à prier, dis-nous comment prier. Ils sont demandeurs. Une autre fois, Jésus raconte une parabole, la parabole du semeur. Et les disciples vont à nouveau aller vers Jésus et disent, explique-nous, on n'a pas tout bien saisi, on veut comprendre. Une autre fois, Jésus commence à parler de la fin des temps et ils vont lui poser la question, mais quand est-ce qu'on saura que tout ça va s'accomplir? Quels seront les signes? Les disciples font eux-mêmes la démarche d'aller voir Jésus. Ça montre quoi? Ça montre que les disciples, ils ont une attente, ils ont soif, ils ont envie. Et être disciple de Jésus, ce n'est pas se contenter de recevoir, c'est avoir soif de sa parole, c'est aspirer à entendre sa parole, c'est aspirer à comprendre sa parole. La parole, elle ne peut avoir un effet dans notre vie que si on le désire, si on en a envie, si notre cœur est ouvert et prêt à recevoir ces choses. Moins on lit la Bible, et moins on a envie de la lire. Si le dernier verset que vous avez lu, c'est le verset qui s'est affiché sur la dernière diapo du message de la semaine dernière, il y a assez peu de chances que la parole est un effet profond dans votre cœur et une influence sur votre vie. Par contre, plus on lit la Bible, plus on découvre ses richesses, plus on apprend à connaître Dieu au travers de la lecture de la Bible, et plus on a envie de la lire, et plus notre vie est impactée. Ça ne vient pas tout seul, je vous assure, ça ne vient pas tout seul. Il faut que ce soit intentionnel, il faut que ce soit un choix, une décision que nous devons prendre, que je dois prendre. Personnellement, en tant que disciple de Jésus, si je désire être un chrétien dans le vrai sens du terme, si je veux être un disciple de Jésus, il faut que j'ai cet objectif, il faut que j'ai cette intention. Plus on connaît la Bible et plus on est éclairé sur les choix que nous avons à faire, sur les décisions que nous avons à prendre, sur les directions que nous avons à prendre pour notre vie. Si on n'est pas guidé, si on n'est pas conduit, si on n'est pas éclairé, on s'égare, comme disait Gamaliel tout à l'heure. On ne voit pas clair. Et c'est ce qui se passe quand on avance dans le noir, quand on ne sait pas bien. Moi, je suis plutôt du soir, et mon épouse Sandrine, elle est plutôt du matin. Donc ça crée des fois un petit peu des décalages. Il m'arrive de travailler jusque tard le soir, comme hier soir, ou ce matin d'ailleurs, pour terminer le message. Et le problème, évidemment, c'est d'entrer dans la chambre au moment où je vais aller me coucher, parce que Sandrine, ça fait 2 heures, 3 heures, peut-être déjà qu'elle dort profondément, elle est dans le cycle et dans la phase profonde de rêve, de bien-être. Et je sais exactement, par habitude, le nombre de pas que je dois faire à partir du moment où j'ouvre la porte de la chambre. Vous savez, je fais 4 pas, alors je referme doucement. D'ailleurs, il va falloir que j'huile la clenche parce qu'elle fait de plus en plus de bruit. Donc je sais que quand j'ai fermé la porte, je fais 4 pas et au bout de 4 pas, j'arrive au niveau du bureau et à la fin du lit. Et je sais donc que je peux faire 4 pas en tournant sur la droite. Là, j'arrive au mur et je peux même déposer mes affaires sur l'étagère qui se trouve à ma gauche, mettre mon pyjama et dormir. La plupart du temps, ça marche bien. Sauf qu'une fois, j'avais l'impression d'avoir fait mes 4 pas, mais j'ai perdu l'équilibre. Et j'ai pris appui sur le lit, mais pas sur le lit lui-même, sur la jambe de Sandrine. Sandrine qui, évidemment, a sursauté, donc j'étais désorienté, je me suis pris la bibliothèque. Et ça a été un peu plus compliqué pour retrouver la suite du chemin. Donc c'était mort, Sandrine était réveillée, elle est de bonne humeur, heureusement. Mais vous savez, quand on n'est pas guidé, quand on n'est pas éclairé, c'est ce qui se passe même dans notre vie. On connaît des échecs, on se heurte, on commet des erreurs. Nos relations sont détériorées parce que nous les tissons d'après nos humeurs, d'après ce qui nous semble bon, les choix que nous faisons, que ce soit les études, nos choix professionnels, nos choix sentimentaux, nous mènent dans des impasses parce qu'on ne discerne pas bien la direction qu'on devrait prendre et on ne voit pas les conséquences que ça va avoir. On ne sait pas comment réagir quand vient l'épreuve, même quelquefois. Et on trouve ça contradictoire avec le fait d'être chrétien. Mais pourquoi ça m'arrive ? Seigneur, j'ai confiance en toi, je crois en toi. Pourquoi est-ce que je traverse ça ? Pourquoi est-ce que je vis ça ? On a besoin d'être éclairé. Si on n'est pas éclairé, on s'égare, on ne comprend pas et on baisse les bras. Face à cela, Jésus a eu cette parole importante. C'est le texte de Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. » Croire en Jésus ne suffit pas. Il faut croire Jésus. Ouais, je vais la refaire, parce qu'elle est bonne cette phrase. Et j'ai entendu 2 personnes dire « Amen ». Croire en Jésus ne suffit pas, il faut croire Jésus. Amen. Ok, il y a plus que 3 pentecôtistes dans la salle, ça me rassure. Ça aussi, c'est intentionnel. Et on va voir rapidement le troisième point. Être disciple de Jésus, c'est mettre sa parole en pratique. C'est bien de connaître, mais c'est bien de vivre aussi. Revenons au texte de Marc, chapitre 3, tout à l'heure, où il était question de l'appel de Jésus. On a vu qu'il avait appelé ce qu'il voulut. Il a appelé ses disciples. Au verset 14, il est dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, pour les avoir avec lui. Jésus a voulu passer du temps avec eux pour les enseigner. Et là, c'est le principe de la relation qui existait entre les disciples et leur rabbi qui est exprimé dans ce texte. C'est que le disciple devait être constamment avec le maître, pour l'écouter, pour recevoir son instruction, mais aussi pour l'observer et pour l'imiter. Le but, c'était de penser comme le maître, c'était d'agir comme le maître, parce que le maître était la référence en tout. Écouter son enseignement, il y avait cette dimension-là, mais c'était pour voir aussi comment il mettait son enseignement en pratique. Donc le disciple, il était là et il devait manger comme le maître mangeait. La même sélection dans les aliments, la même manière de purifier les aliments. Il devait observer le sabbat comme le maître observait le sabbat. Il devait payer la dîme comme le maître payait la dîme, toujours en train de l'observer. Alors vous avez des histoires bizarres dans la littérature rabbinique, parce qu'il nous est dit notamment que Rabbi Akiba, qui était un rabbi lui-même d'ailleurs, quand il était disciple de son maître, il était même allé observer son maître quand il allait aux toilettes, pour voir comment il appliquait la Torah quand il allait aux toilettes. Alors, dans quelle orientation il prenait, plutôt du nord vers le sud. Et il pensait que c'était une manière aussi d'appliquer la Torah. Alors, je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais elle montre jusqu'à quel point les disciples avaient le souci d'observer et d'être le plus proche possible du maître pour voir comment il vivait les choses. Et Jésus a voulu que ses disciples soient constamment avec lui pour que ses disciples s'imprègnent de lui. Que ses disciples soient constamment dans sa présence pour qu'ils décalquent sur eux. La seule manière en tant que disciples de Jésus, de bien appliquer l'enseignement de Jésus dans notre vie, c'est de maintenir le contact le plus étroit possible avec lui. Et ça, c'est possible grâce au Saint-Esprit. On n'a pas la possibilité, comme l'étaient les disciples à l'époque, d'être à ses pieds, de l'observer dans la vie quotidienne. Mais par contre, Jésus nous a fait une promesse, c'est que nous ne serions pas seuls et que le Saint-Esprit, qui est identique à lui, qui rappellerait tout son enseignement, nous dit Jésus, il serait là, il serait avec nous. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous faire toujours plus ressembler à Jésus. C'est une dimension qui est essentielle dans la vie du disciple de Jésus, dans la vie du chrétien. Il y a une histoire, je savais qu'un jour je la raconterai. C'est une histoire que Daniel nous a racontée il y a des années et des années. L'histoire qui concerne un des prédicateurs, certainement encore aujourd'hui, les plus influents aux États-Unis, d'origine sicilienne, Tony Campolo. Et voilà, c'est à mon tour de la raconter, cette histoire. Peut-être que vous en souvenez quand Daniel l'avait racontée, mais je crois que c'était il y a longtemps hein, déjà, hein. C'était pas l'année dernière. Hein. Tony Campolo était invité à Hawaï pour faire une mission. Il allait exercer son ministère là-bas. Et je ne sais pas si c'est à cause du décalage horaire ou quoi, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il était dans son hôtel, il tournait dans son lit et il n'arrivait pas à dormir. Et on était en plein milieu de la nuit, il était 3 heures du matin et il décide d'aller prendre l'air. Il dit « je vais me changer les idées » et en marchant, il arrive dans une petite ruelle adjacente et il trouve un bar ouvert. Il dit « bon, bah, allez, je vais aller prendre un café, ça va m'aider à dormir, c'est bizarre. Mais... » Bon, on est en Amérique, hein. Le café américain, il n'est pas violent. Hein. C'est un peu d'eau aromatisée. Je donc, il rentre dans le bar. Alors, le bar, c'est ce qu'on appelle un bouge. C'est pas très propre. Là, derrière, il s'assoit au bar. Derrière le bar, il y a un gars costaud avec la chemise toute tachée. Et même le menu, il n'osait pas le toucher. Il avait peur d'attraper des maladies tellement c'était gras. Et puis il commande un café avec un beignet. Et il dit même, quand il raconte l'histoire, qu'il aurait bien voulu que le barman prenne une pince et mette ça dans un papier pour lui donner, parce qu'il a l'impression qu'il l'a ramassé dans son placard derrière. Là. Donc il est là, il boit son café, il mange son beignet. Il est 3h30 du matin. Et d'un seul coup, il y a une dizaine de femmes qui entrent dans le bar. Et très rapidement, il s'aperçoit que ce sont des prostituées. Elles sont là, elles parlent, elles sont très bruyantes. Et elles viennent pour faire la pause. Et elle s'assoit dans le bar et Tony Campolo, il se retrouve entouré de prostituées. Il est pasteur, hein, prédicateur. Hein. Une prostituée à sa gauche, une prostituée à sa droite. Et puis, il entend la conversation qu'elles ont entre elles. Et puis, il y en a une qui est à côté d'elle et qui dit « Ah là là, demain c'est mon anniversaire, je vais avoir 39 ans. » Et l'autre prostituée, elle répond « Mais pourquoi tu me dis ça ?» Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je te chante Happy Birthday? Et l'autre répond, on dit, ben, non, pourquoi tu m'agresses comme ça? C'est pas ça, c'est simplement, je voulais le dire. Et puis de toute manière, on ne m'a jamais fêté mon anniversaire, jamais de ma vie, j'en ai eu aucun. Alors, et puis les prostituées sont reparties, et Tony Campolo, il était là, il avait entendu ça. Et... il demande au barman là, qui est en face de lui, il dit, mais ces femmes-là, ces prostituées, elles font leur pause tous les soirs comme ça? Il dit, oui, à la même heure. Oui, à la même heure. Il dit, bon, ben, j'ai une idée, là, j'ai entendu la conversation là, avec cette prostituée qui se prénommait Agnès, et j'ai envie qu'on lui fête son anniversaire. On ne lui a jamais fêté son anniversaire de sa vie, c'est demain. Alors, si on fêtait son anniversaire, barman, il dit, waouh, ça c'est une bonne idée, ça me plaît bien, on la connaît, elle est gentille. Et alors, Tony dit, bon, à ce moment-là, demain je reviens, une heure avant, à 2h30, et je viendrai avec des décorations et j'achèterai un gâteau d'anniversaire. Et le gars dit, non, le gâteau d'anniversaire, c'est nous, avec mon épouse, on va s'en occuper. Mais il était emballé par l'idée de pouvoir fêter l'anniversaire d'Agnès. Et c'est ce qui s'est passé. Tony Campolo, il va se relever au milieu de la nuit. Il était parti acheter des décorations. Il avait acheté des cartons avec les lettres de joyeux anniversaire, enfin Happy Birthday. Et il revient et puis le gâteau était prêt. Et la nouvelle avait commencé à se répandre. Certainement que le barman et son épouse avaient parlé de ça. Et ce qui fait que c'était devenu un point de rendez-vous. quand il y a plein de prostituées qui savaient que ça allait être l'anniversaire d'Agnès. Donc elles sont venues. À un moment donné, le bar était, il y avait plus du double de prostituées qu'il y avait la veille, jusqu'au moment où Agnès est entrée. Et là, quand elle est entrée, tout le monde a dit « Joyeux anniversaire, Agnès !» Elle était tétanisée, elle était saisie. Il n'y avait plus une parole qui sortait de sa bouche. Elle était obligée de s'asseoir, elle avait les larmes aux yeux. Et là, tout le monde a entonné « Happy birthday to you !» Et elle était émue. Et là où elle a vraiment craqué, c'est au moment où on lui a apporté son gâteau. Elle n'avait plus de force, elle était terrassée par l'émotion. À tel point qu'elle a dit « Oh non, non, le gâteau, je peux pas le manger. Est-ce que le gâteau, je peux le ramener chez moi ? Est-ce que j'habite là, deux portes à côté, est-ce que je pourrais le ramener chez moi ?» Elle n'avait jamais eu ça de sa vie, elle voulait garder le gâteau. Alors le barman lui dit « Bien sûr, tu peux ramener ça chez toi. » Et elle prend le gâteau comme si c'était le Saint Graal, et puis elle rentre chez elle. Et voilà Tony Campolo qui se retrouve au milieu de toutes ces prostituées. La mission prenait un tour bizarre. Hein. Et comme il était un peu le maître de cérémonie, il a dit « Et si on priait ?» Et il a commencé à prier. Il a prié notamment pour Agnès. Il a prié pour que le Seigneur la bénisse. Il a prié pour que le Seigneur la sauve. Il a prié pour que le Seigneur lui donne une autre vie. Et là, le barman, il regarde Tony Campolo, il dit « Mais dis donc, tu ne m'avais pas dit que tu étais un prédicateur ?» Et là, vraiment, il y avait de l'animosité. Il dit, un jour, tu m'as piégé, là. Wow. Il dit, mais c'est pas possible. De quelle église tu peux faire partie? Et Tony Campolo, il répond, c'est génial. Il répond, mais je fais partie de l'église qui organise des fêtes d'anniversaire pour les prostituées à 3h30 du matin. C'est bon, ça, c'est bon. Et le barman lui dit, mais une église comme ça n'existe pas. Si ça existait, je serais le premier à la rejoindre. Cette histoire, elle est magnifique, elle est merveilleuse. J'espère que je l'ai aussi bien racontée que Daniel. J'espère qu'elle dépose quelque chose dans nos cœurs, surtout parce qu'elle est magnifique, mais en même temps, elle est triste. Elle est magnifique parce qu'on voit ce que c'est quand quelqu'un est disciple de Jésus et décide intentionnellement d'être le porteur du message qu'il a reçu. Il est disciple de Jésus. C'est Tony Campolo, il trouve sa sécurité en Jésus. Mais elle est triste parce que quand même, la réflexion du barman, c'est une réflexion qui montre qu'on ne s'attend pas tant que ça à ce que les chrétiens fassent ce genre de choses. Il y a un tel décalage entre l'incarnation de l'évangile qu'a été Tony Campolo et la réaction de cet homme. Et pourtant, il dit, mais si une église comme ça existe, je suis le premier à y aller. Ça fait réfléchir profondément sur ce qu'est être disciple de Jésus-Christ. Ça nous donne envie d'être comme Pierre et pas comme le jeune homme riche qui s'appuie sur ce qui représente sa sécurité, son environnement. Je voudrais conclure en évoquant un peu ce qu'on est en train de vivre. On vit certainement une des élections présidentielles les plus mouvementées. Hein. On n'a pas vu souvent ce genre de choses. Ça prend un tour un peu particulier. Et les résultats du premier tour, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça crée beaucoup, beaucoup d'incertitudes. C'est une situation inédite parce que nos repères politiques traditionnels ne sont pas présents. D'habitude, on sait qui il y a, quel est le camp qui est représenté au second tour. Et là, ce n'est pas le cas. Et ça crée beaucoup d'incertitudes, ça crée beaucoup d'hésitations, des débats, des questionnements, y compris parmi les chrétiens. Je vois tous les échanges qu'il y a sur les réseaux sociaux, les informations aussi qui sont partagées sur les sites d'information chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment remplir leurs responsabilités de citoyens. Là, pour beaucoup, moi je veux être responsable. Et je veux faire un choix, un bon choix, mais pour beaucoup, on a le choix entre le pire et le moins pire, quel que soit le sens. Hein. Comment faire pour exercer ma responsabilité? La question c'est, qu'est-ce qui est bien pour mon pays? Quel est celui qui ou celle qui pourra changer la société? Quel est celui ou celle qui pourra redonner de l'espoir?
Quel est celui qui pourra changer les choses?
Je pense qu'il n'y a pas seulement deux personnes qui ont cette capacité, parce que là, nos regards sont rivés sur les deux candidats qui restent, qui sont toujours en lice. Il n'y a pas que deux personnes dans ce pays qui ont la capacité de changer la société. Il y a des dizaines de personnes, il y a des centaines de personnes, il y a des milliers de personnes. Et parmi ces milliers de personnes, il y en a des tas qui sont devant moi. Parce que j'ai devant moi des partisans de Christ. J'ai devant moi des gens qui sont prêts à militer pour Christ, qui sont prêts à vivre l'Évangile, qui sont prêts à incarner l'Évangile là où ils sont situés. Ne croyez pas que le Messie va surgir des urnes dimanche prochain. Par contre, le Messie, vous le connaissez, le Sauveur, vous le connaissez. Le Sauveur de la France ne sera pas à l'Élysée la semaine prochaine. Certainement qu'il y aura des choses bien qui seront faites et d'autres moins bien, mais le Sauveur du monde, par contre, nous le connaissons. Et le Sauveur du monde, il vit en nous par son Esprit. Le Sauveur du monde, il est là où je suis, parce que là où je suis le temple du Saint-Esprit. Et Jésus parle, Jésus se manifeste, le royaume de Dieu se manifeste. Tous les partisans de Christ ont la possibilité d'impacter la société, comme Tony Campolo l'a fait à son échelle, et de faire renaître l'espoir en incarnant et en vivant le message de Jésus. Je suis certain que le Sauveur du monde se manifestera partout où les partisans de Christ, les chrétiens, les disciples de Jésus seront. C'est ça la vraie responsabilité. C'est ça la vraie vision que nous sommes appelés à avoir. La France ne sera véritablement apaisée que lorsque l'Église de Christ se mettra en marche. Prions, et posons-nous les questions, ok? Jésus a dit « suis-moi ». Et dire à des gens « suis-moi », ça veut dire « je veux que tu sois mon disciple, je veux que tu répondes à mon appel ». Et au travers de cet appel, c'est Dieu qui te dit « je t'aime, je veux marcher avec toi ». Mais quand je viens à l'Église, qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis mes amis? Est-ce que je suis mes parents? Est-ce que je suis une tradition? Est-ce que je suis une habitude? Ou bien est-ce que je suis vraiment Jésus? Est-ce que c'est Jésus que je viens entendre? Est-ce que c'est Jésus que je viens adorer, que je viens élever, que je viens glorifier? Qu'est-ce qui me motive profondément? Est-ce que je suis là parce que c'est normal d'être là le dimanche matin? Ou est-ce que je suis là parce que je veux entendre la parole de Jésus? Est-ce que je suis là parce que c'est normal d'entendre la parole de Jésus, mais est-ce que je veux vivre la parole de Jésus? Est-ce que je veux l'appliquer? Ce sont les questions qu'on est appelé à se poser. Si nous voulons être des chrétiens, nous devons être des disciples de Jésus. Et ça passe par donner une réponse claire à chacune de ces questions. Alors je voudrais qu'on se recueille. Je voudrais qu'on se place devant Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, qui est celui que nous pouvons appeler notre maître pour ceux qui se sont engagés avec lui. Et de se dire, où est-ce que j'en suis avec Jésus? Est-ce que j'entends son appel à le suivre? Est-ce que j'entends derrière l'appel de Jésus, suis-moi, là, tout l'amour de Dieu? Alors que je marche, que j'entends l'Évangile depuis des semaines, des mois, peut-être des années, est-ce que je suis prêt maintenant à faire ce pas de répondre à l'appel, de dire, ok, je viens, je reconnais que tu es mort pour moi, je reconnais ce que tu as accompli à la croix. Tu étais le maître, mais tu as eu une mort d'esclave pour que moi, le disciple, je puisse vivre cette vie magnifique. Je puisse toujours avoir l'espoir dans mon cœur et dans ma vie. Est-ce que là, je suis prêt à répondre à cet appel? Est-ce que je suis prêt à dire oui? Est-ce que tu entends cet appel de Jésus à le suivre? Est-ce que tu entends cet appel qui te demande de faire le pas, qui te dit, c'est maintenant, fais ce pas. Moi, je t'accueille, je te regarde avec un regard d'amour. Et n'aie pas peur, parce que je suis ta sécurité. Je suis ta sécurité. Est-ce que tu entends l'appel de Jésus qui dit, mais, prends du temps pour recevoir mon enseignement, prends du temps pour recevoir l'instruction dont tu as besoin, parce que là, dans ta vie, tu as besoin de base, tu as besoin de fondation. Tu es perdu, tu ne sais pas trop sur quelle base prendre tes choix. Tu es dans un moment crucial dans ta vie et tu ne sais pas vers quoi te tourner. Tu es dans l'incertitude. Et Jésus fait cet appel. Prends du temps pour lire ma parole. Pas simplement la parole qui est annoncée le dimanche matin, sinon tu vas avoir qu'une vision très fragmentaire, très réduite de toutes les richesses qui sont contenues dans la parole. Mais prends du temps pour te plonger dans cette parole. Prends cette décision de mieux la connaître,
Est-ce que tu as soif? Ou bien est-ce que tu te contentes de ce qui t'est servi une fois par semaine? Est-ce que tu veux connaître ces versets, ces textes bibliques qui vont fonder ta vie, qui vont changer ta vie? Ou est-ce que tu veux te contenter de ces versets qui sont affichés le dimanche matin? Est-ce que tu acceptes d'être éclairé par la parole, par la lumière du monde, par Jésus? Et après tous ces appels, après tous ces enseignements, notamment qui ont été donnés par David, est-ce que je suis prêt à mettre la parole en pratique? Est-ce que je suis prêt à le faire comme l'a fait cette jeune ici à Angers, à la sortie du tramway? Est-ce que je suis prêt, non pas à copier ce qu'a fait Tony Campolo, mais à saisir ces occasions, à prendre ce risque calculé? Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais il s'agit là de prendre ce risque pour que l'Évangile passe, pour donner envie aux gens de connaître Jésus, de connaître l'Évangile. Est-ce que je prends cette décision d'incarner cet Évangile? Seigneur, viens nous parler. Nous croyons en la présence de ton Esprit. Nous croyons que c'est lui qui agit, c'est lui qui fait que cette parole, elle devient vivante. Ma parole est esprit et vie. Et je te demande, Seigneur Dieu, que cette parole devienne vivante en chacun de nous. Je te prie, mon Dieu, que nous soyons capables ce matin de répondre à ton appel, quel qu'il soit, que tu nous aides à faire ce pas supplémentaire, à aller plus loin avec toi. Tu vois les déficits que nous pouvons avoir dans nos vies, tu vois ce qui nous contente. Et on n'a pas envie d'aller plus loin, on est tranquille, on est bien comme ça, et on n'a pas envie de challenge, on n'a pas envie de défi. Tu vois, Seigneur, le temps aussi que nous consacrons à ta parole. Seigneur, viens créer cette soif. Viens accomplir ces choses dans nos cœurs et dans nos vies. Nous ne le pouvons pas par nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, lorsque nous prêchons ta parole, nous voulons te demander d'agir. Nous voulons nous placer devant toi, Seigneur. Et je te prie, mon Dieu, pour que ce que nous avons partagé ensemble ne soit pas un message de plus qui sera oublié dans une heure. Parce que les enjeux, ils sont là, ils sont importants. Ils sont pour l'avenir de notre Église, ils sont pour l'avenir de la ville dans laquelle tu nous as placés, pour l'avenir de nos familles, de nos amis, de nos voisins, mais aussi de notre pays. De notre pays, si chaque chrétien est un vrai disciple de Jésus-Christ, nous pouvons impacter notre pays là où nous sommes placés. Ça peut paraître pas grand-chose, mais pas grand-chose plus pas grand-chose, ça devient quelque chose d'énorme. On a soif que la France te connaisse encore plus, Seigneur. Et ultimement, cette responsabilité, elle nous revient, à nous, en vivant l'Évangile, en incarnant l'Évangile, en étant d'authentiques et de réels disciples de Jésus. Viens et souffle sur nos cœurs, Seigneur. Jésus, parle à mes amis, parle à mes frères, parle à mes sœurs, parle-moi, Seigneur. Montre-moi mes faiblesses, afin que je puisse les surmonter avec l'aide de ton Esprit. Et être celui que je dois être, être celle que je dois être. Alléluia, Jésus. Amen.